I wish that girls could fail as bad as men do.
Human rights are women's rights, and women's rights are human rights.
Maintenir à mon destin de fille, c'est-à-dire inférieure, servant les hommes. Alors j'ai dit non.
Les filles obéissantes vont au ciel, les autres vont où elles veulent.
Bonjour et bienvenue dans Parole de sorcière. Alors que les jeux sont pour la première fois paritaires depuis leur création, il est désormais temps de revenir sur la place des femmes dans le sport. Si le mois dernier, Parole de sorcière vous a présenté deux sportives de haut niveau qui ont chacune marqué l'histoire du sport à leur façon, ce mois-ci, nous aimerions revenir sur la place des femmes dans le sport de manière plus générale. Elles ont rencontré et rencontrent toujours des obstacles pour pouvoir pratiquer leur discipline. Elles font face aux stéréotypes de genre, elles sont sous-médiatisées. Si le sport féminin progresse, les inégalités perdurent. Et pourtant, le sport est un levier d'émancipation des femmes et des filles. C'est pourquoi de nombreuses initiatives sont mises en œuvre pour promouvoir le sport féminin. Si ce sujet vous intéresse, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans l'épisode « Elles font le sport » de Paroles de sorcières.
Bad as men do.
Human rights are women's rights, and women's rights are human rights.
Comme les Jeux Olympiques battent leur plein, commençons par revenir sur la place des femmes dans les Jeux. Elles en étaient exclues pendant l'Antiquité, cependant, les Jeux contemporains ne prévoyaient pas non plus de les inclure, et il a fallu des pionnières pour que les femmes prennent leur place. C'est seulement en 1900 à Paris que les premières femmes y participent, avec seulement 22 participantes sur 997 athlètes. Malgré l'opposition de Pierre de Coubertin, ancien président du Comité international olympique et fondateur des Jeux contemporains, qui voyait les Jeux olympiques comme une célébration de l'athlétisme masculin. Il déclara en 1912 que les Jeux olympiques constituent, je cite, « l'exaltation solennelle et périodique de l'athlétisme mâle, avec l'applaudissement féminin pour récompense ». Fin de la citation. La participation des femmes s'est petit à petit démocratisée. Les Jeux olympiques d'Amsterdam de 1928 ont marqué l'introduction des épreuves d'athlétisme et de gymnastique féminine et ont été une avancée significative dans l'histoire du sport. Cependant, les athlètes ont été critiqués pour leur manque de féminité, ce qui a retardé leur inclusion. Les participantes étaient exclues et logées en dehors du village olympique. C'est finalement en 1984, à Los Angeles, que cette exclusion a été évincée. À partir de 1976, aux Jeux olympiques de Montréal, la présence des athlètes féminines a augmenté de manière significative, atteignant jusqu'à 20,7% des athlètes. Cette tendance s'est poursuivie jusqu'à frôler les 50% à Tokyo en 2020 et finalement atteindre la parité aux Jeux olympiques de 2024. Depuis 1996, la charte olympique a été amendée pour promouvoir l'égalité des sexes et des femmes ont été intégrées dans les instances du Comité international olympique. Tout cela a été permis grâce au travail et à la détermination de nombreuses femmes, comme Alice Mia, qui a plaidé pour la participation des femmes aux Jeux olympiques et qui a créé la Fédération sportive féminine internationale. Puisque les femmes ne pouvaient pas participer aux Jeux olympiques, elle a créé les Jeux olympiques féminins, qu'elle doit renommer Jeux mondiaux féminins, où des milliers de spectateurs peuvent apprécier les performances d'une centaine d'athlètes. Bref, les femmes n'ont pas eu accès aux Jeux olympiques immédiatement.
I wish that girls could fail as bad as men do.
Un des obstacles majeurs qui s'est dressé contre la pratique sportive des femmes est la question de leur féminité et de leur force. Cet argument a été utilisé à maintes reprises et est encore utilisé aujourd'hui pour dissuader les femmes de se professionnaliser. En effet, en se musclant, en développant leurs capacités sportives, elles perdraient leurs atouts qui les font femmes. Les nageuses avec des épaules trop grandes, les cyclistes avec des cuisses trop impressionnantes, des judokates trop imposantes. Bref, tous ces aspects sont insupportables pour certains, car ces athlètes ne respectent pas les diktats de beauté imposés par la société aux femmes. Pendant longtemps, l'idée prévalait que le sport était une activité masculine, nécessitant des qualités telles que la force, l'agressivité, la compétition, des traits souvent associés aux hommes. Les femmes, en revanche, étaient censées être gracieuses, douces et un peu compétitives. Cette vision a non seulement découragé de nombreuses jeunes filles à s'engager dans le sport, mais elle a aussi influencé la manière dont les athlètes féminines sont jugées. Prenons l'exemple de Serena Williams, l'une des plus grandes joueuses de tennis de tous les temps. Malgré ses succès incontestables, elle a souvent été critiquée pour son physique musclé et son attitude combative sur le court. des traits généralement admirés chez ses homologues masculins. Ces critiques sont enracinées dans des stéréotypes de genre qui associent la force et la compétitivité à des qualités masculines et qui, par conséquent, stigmatisent les femmes qui les possèdent. En outre, les femmes athlètes sont souvent jugées non seulement sur leur performance sportive, mais aussi sur leur apparence physique. Les médias jouent un rôle crucial dans la perpétuation de ces stéréotypes. Par exemple, les reportages sur les compétitions sportives féminines accordent souvent une attention disproportionnée à l'apparence des athlètes plutôt qu'à leur performance. Maria Sharapova, une autre star du tennis, a souvent été plus médiatisée pour son apparence que pour ses compétences sur le court. Par exemple, Gala, dans son portrait, dit, je cite, « Sa beauté l'a rapidement fait connaître du grand public ». Fin de la citation. Cela contraste fortement avec la couverture médiatique des sportifs masculins, où l'accent est généralement mis sur leur performance et sur leur réalisation. De nombreuses sportives se battent aujourd'hui contre ces stéréotypes sur les apparences, comme Romane Dicot, la judokate française, qui s'est engagée contre la grossophobie, ou encore la rugbywoman états-unienne Ilona Maher, qui tourne TikTok sur TikTok pour montrer ses habitudes de vie en tant que sportive de haut niveau qui a remporté une médaille d'or aux Jeux Olympiques 2024, qui mange à sa faim et fait ce qu'elle veut de son corps.
M'en tenir à mon destin de fille, c'est-à-dire inférieure, servant les hommes. Alors j'ai dit non.
L'accessibilité au sport pour les femmes reste entravée par de nombreuses difficultés. Allant des stéréotypes de genre aux infrastructures inadéquates, en passant par le manque de soutien financier et institutionnel. Dans de nombreuses régions du monde, les normes culturelles et sociales continuent de dicter que le sport est une activité principalement masculine. Par exemple, en Arabie Saoudite, ce n'est qu'en 2018 que les femmes ont été autorisées à assister à des événements sportifs dans des stades. Et les possibilités pour elles de participer activement au sport restent limitées. En Inde, les femmes et les filles rencontrent souvent des obstacles considérables en raison de pressions familiales et de la priorité accordée à l'éducation ou aux tâches domestiques, réduisant ainsi leur temps et leur liberté pour s'adonner aux activités sportives. En plus de la barrière culturelle, le manque d'infrastructures adaptées joue un rôle crucial dans l'accessibilité limitée des femmes au sport. Dans de nombreux pays en développement, les installations sportives sont souvent rares et mal équipées, et celles qui existent sont généralement réservées ou dominées par des hommes. Même dans les pays développés, les installations pour les sports féminins reçoivent souvent moins de financement. Par exemple, les équipes féminines de football aux États-Unis se battent depuis des années pour obtenir des terrains d'entraînement et des conditions de voyage équivalentes à celles des équipes masculines. Le soutien financier est également une barrière significative. Les sponsors et les investisseurs sont plus enclins à financer des équipes et des événements masculins, laissant les athlètes féminines à court de ressources essentielles. Les équipes nationales féminines de football, comme celles des États-Unis et de l'Australie, ont dû se battre pour une rémunération équitable et des primes de victoire similaires à celles de leurs homologues masculins. Cette inégalité de financement ne se limite pas aux équipes professionnelles, elle affecte également les programmes de développement des jeunes filles, limitant leurs opportunités de s'entraîner et de progresser dans leur discipline sportive. L'équipe de foot féminine en Île-de-France a été supprimée pour une question budgétaire et remplacée par l'équipe Vasseillance de D2 de l'équipe masculine. En outre, les femmes athlètes doivent souvent jongler avec les responsabilités familiales, ce qui complique encore davantage leur participation au sport. Celles qui ont des enfants font face à des défis uniques car elles doivent équilibrer leur carrière sportive avec les exigences de la parentalité. Serena Williams, pour revenir à elle, a ouvertement discuté des défis qu'elle a rencontrés en tant que mère, tout en poursuivant une carrière de haut niveau dans le tennis. Le manque d'infrastructures adaptées, comme des garderies sur des lieux d'entraînement ou des horaires flexibles, complique cette situation. En conséquence, de nombreuses femmes sont contraintes de réduire leur engagement sportif ou d'abandonner complètement leur carrière pour répondre aux besoins de leur famille. Pour remédier à cela, il est crucial de développer des soutiens spécifiques pour les mères athlètes, tels que des services de garde d'enfants et des politiques plus flexibles, afin de leur permettre de concilier plus facilement leur vie familiale et leur carrière sportive. Un autre exemple montrant que les compétitions sportives sont pensées pour les hommes est celui de Sophie Power, une coureuse de l'extrême. Elle a fait le buzz grâce à une photo prise à l'occasion de l'Ultra Trail du Mont Blanc, une course de 171 km. où elle a fait une pause dans ses 43 heures de course pour allaiter son bébé de 3 mois. Elle explique, je cite, « J'avais réussi à avoir une place alors que j'étais enceinte de mon aîné, en 2014. Mais ils ont refusé de reporter ma participation d'un an. Ils le font pour les blessures, mais n'acceptent pas pour les femmes enceintes, car selon eux, c'est un choix. » Fin de la citation.
Les filles obéissantes vont au ciel, les autres vont où elles veulent.
Les disparités de rémunération entre les athlètes masculins et féminins constituent un autre exemple des effets de stéréotypes de genre dans le sport. Dans de nombreux sports, les femmes sont moins bien rémunérées que leurs homologues masculins, même lorsqu'elles obtiennent des résultats équivalents, voire meilleurs. En football, par exemple, l'équipe nationale féminine des États-Unis, qui a remporté plusieurs Coupes du Monde, a longtemps lutté pour obtenir une rémunération égale à celle de l'équipe masculine, moins performante. Sans entrer dans les détails des salaires, des primes et des bonus qui sont souvent doublés pour les hommes, sur le terrain des revenus totaux, chaque joueur a touché en moyenne 30 000 dollars de plus par an que les joueuses. Et ce, malgré le fait que l'équipe féminine ait généré plus de revenus et des bénéfices pour la Fédération américaine de football. Cette inégalité salariale reflète une sous-évaluation systématique des compétences et des réalisations des femmes dans le sport. Dans le domaine du basketball, les joueuses de WNBA, Women's National Basketball Association, gagnent une fraction de ce que leurs homologues masculins de la NBA, National Basketball Association, perçoivent. En 2020, le salaire moyen d'une joueuse de la WNBA était d'environ 130 000 dollars, alors que le salaire moyen d'un joueur de la NBA dépassait les 7 millions de dollars. Cette inégalité est d'autant plus frappante que les joueuses jouent un nombre similaire de matchs et attirent de plus en plus de spectateurs. Pour combler cette disparité, la Women's National Basketball Association a récemment négocié un nouvel accord collectif visant à augmenter les salaires et à offrir de meilleures conditions de travail. Mais il reste encore un long chemin à parcourir pour atteindre l'égalité salariale. Les sports de plein air, comme le surf, présentent également des disparités salariales significatives entre hommes et femmes. En 2018, une photo est devenue virale. Elle montrait deux jeunes surfeurs, un garçon et une fille, recevant leur chèque de récompense pour une compétition junior en Afrique du Sud. Le garçon recevait un chèque deux fois plus élevé que celui de la fille, bien qu'ils aient participé à la même compétition. Cet incident a mis en lumière les disparités flagrantes dans les récompenses financières des compétitions de surf. Depuis, certaines ligues, comme la World Surf League, ont promis d'égaliser les primes pour les compétitions masculines et féminines. Mais la mise en œuvre de ces changements nécessite un effort concerté et une vigilance constante pour garantir que les femmes reçoivent une rémunération équitable pour leurs performances. Ce sont des femmes comme Billie Jean King dans le tennis ou Megan Rapinoe qui ont mené des combats tout au long de leur carrière pour une égalité des primes et une égalité des salaires. Suite à la Coupe du Monde de foot féminin en France et les dénonciations de nombreuses joueuses, la FIFA a décidé de doubler son budget consacré au football féminin. Mais nous sommes encore loin du compte, et cela aussi du fait d'une sous-médiatisation du sport féminin. Le problème continue après la carrière de ces sportifs de haut niveau, qui ne retrouvent pas forcément d'emploi, malgré leurs nombreux titres, et ne peuvent se permettre de vivre de leurs revenus passés. Ainsi, Ouest France titrait en parlant de la judokate française Émilie Andéol, je cite, championne olympique sans emploi. Fin de la citation. Après qu'elle se soit retirée des tatamis en 2017 et qu'elle ait parlé des difficultés des sportives de haut niveau à se reconvertir.
Bad as men do.
Human rights are women's rights and women's rights are human rights.
La sous-médiatisation du sport féminin est une problématique persistante qui contribue à l'inégalité entre les athlètes féminins et masculins et sert de justification aux inégalités salariales. Une étude de l'université de Southern California a révélé qu'en 2019, seulement 5,4% du temps d'antenne des émissions sportives aux États-Unis était consacré au sport féminin. En natation, une discipline où les femmes ont excellé et établi de nombreux records, notamment avec des nageuses comme Cathy Ledecky ou Kayleigh McCohen ou encore Summer McIntosh, les compétitions féminines reçoivent souvent une couverture médiatique beaucoup moins importante que les événements masculins. Lors des Jeux Olympiques, les exploits des nageuses comme Cathy Ledecky sont souvent relayés au second plan par rapport aux performances masculines, malgré ses multiples médailles d'or et records du monde. Cette inégalité de couverture médiatique prive les athlètes féminines de la reconnaissance qu'elles méritent et limite les opportunités de sponsoring et de financement. Un autre exemple marquant est le basketball féminin en France. La Ligue féminine de basketball, LFB, peine à obtenir une couverture médiatique significative sur les chaînes principales. En 2020, seulement une poignée de matchs de la LFB ont été diffusés sur les chaînes nationales, tandis que les matchs de la Pro A, la Ligue masculine, étaient largement télévisés et commentés. Cette sous-médiatisation ne reflète pas le talent et l'enthousiasme de l'équipe féminine, comme celui de l'équipe de Basketland, championne de France en 2021. Le manque de visibilité médiatique réduit non seulement l'audience potentielle des sports féminins, mais impacte également les revenus des clubs et des joueuses qui dépendent des droits de diffusion et des partenariats commerciaux pour financer leurs activités. Pour promouvoir l'égalité, il est essentiel que les médias accordent une couverture équilibrée aux sports féminins et masculins, permettant ainsi aux athlètes féminines de bénéficier d'une plus grande visibilité et reconnaissance. Ainsi, à l'initiative du Conseil supérieur de l'audiovisuel français en collaboration avec le Comité national olympique et sportif français, la Journée internationale du sport féminin a été lancée en 2014 et se tient tous les ans le 24 janvier. Une initiative plus que louable, qui fait son effet, mais doit aussi se poursuivre les 364 jours restants. Pourtant, le sport féminin est plébiscité par le public. En effet, en 2018, suite au championnat d'Europe de handball, 80% des Français souhaitaient voir plus de sport féminin à la télé et 88% pensaient que le sport féminin n'était pas suffisamment médiatisé, alors que jugé aussi intéressant à 83% et spectaculaire à 73% que l'équivalent masculin.
I wish that girls could fail as bad as men do.
Finalement, les femmes sont tout aussi impressionnantes que les hommes. Selon de nombreuses études, les femmes sont même plus endurantes que les hommes. En effet, à plus de 195 miles, les femmes courent plus vite que les hommes et courent à une vitesse équivalente à partir de 100 km de distance. On ne parle pas assez de Jasmine Paris, qui a remporté l'ultra-marathon de la Mountain Spin Race, une course de 430 km organisée au Royaume-Uni. Elle a battu le record auparavant détenu par un homme, en courant plusieurs jours, en ne dormant que 3 heures, et en faisant des pauses pour tirer son lait. À plusieurs reprises, les sports féminins et masculins ont été séparés. Non pas pour plus d'égalité, mais parce que les femmes devenaient plus fortes que les hommes. Par exemple, le patinage artistique était un sport mixte jusqu'au championnat du monde de 1902, où une femme est arrivée seconde. L'année suivante, les femmes ont été bannies, et leur propre catégorie, créée en 1905. La raison pour laquelle les Jeux olympiques de Skeet sont non mixtes, en 1992, Zheng Shan, une femme, a gagné la médaille d'or. En 1996, jeu suivant, les femmes ont été bannies de la catégorie. Et en 2000, une catégorie spécialement pour les femmes a été ouverte.
M'en tenir à mon destin de fille, c'est-à-dire inférieure, servant les hommes. Alors j'ai dit non.
Bref. Bien que des progrès aient été réalisés, les femmes continuent de faire face à des stéréotypes de genre dans le sport qui limitent leur participation et leur reconnaissance. Il est de notre responsabilité collective de déconstruire ces stéréotypes et de créer un environnement où toutes les athlètes, quel que soit leur sexe, puissent s'épanouir et être appréciées à leur juste valeur. Seule une approche inclusive et égalitaire permettra de réaliser le plein potentiel des femmes dans le sport. Parole de sorcière vous remercie d'avoir écouté ce bilan de la place des femmes dans le sport. On se retrouve le 8 septembre prochain pour un nouvel épisode. Si d'ici là nous vous manquons déjà, celui du 8 juillet sur deux sportives Marie Patouillet et Wilma Rudolph est disponible. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram, EDEC Inspiring Woman, où durant tous les Jeux Olympiques et les Paralympiques, nous postons une story chaque jour retraçant le parcours d'une athlète qui a changé l'histoire du sport. Alors on vous dit à très vite avec Parole de sorcière.
I wish that girls could fail as bad as men do.
Human rights are women's rights, and women's rights are human rights.
M'en tenir à mon destin de fille, c'est-à-dire inférieure, servant les hommes. Alors j'ai dit non.
Les filles obéissantes vont au ciel, les autres vont où elles veulent.